Le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
7h50, Denis, mon cœur est partagé parce que j'aurais aimé que les camionneurs puissent se faire entendre, peut-être d'une autre façon, mais il y a seulement entre 10 et 15 véhicules à Québec. Ça démontre encore une fois que peut-être pas assez de solidarité chez les camionneurs qui veulent faire changer les choses, ou peut-être qu'ils ont tout simplement dit « moi, j'embarque pas dans ce genre de manifestation-là ». Mais, tu sais, bon, j'entends mon chef de régie là, parler puis dire « regarde, on va travailler fort sur le dossier ». Les demandes sont assez claires, Denis, c'est qu'on veut enlever les camionneurs illégaux qui sont sur la route, qui coupent les prix, qui ont parfois pas de permis, qui ont parfois pas de formation pour conduire ce type de véhicule-là. Et on demande que les contrôleurs routiers puissent bien faire leur travail sur la route pour retirer des camions qui ont à peine des freins, là.
Je pense qu'il y a deux choses à distinguer très rapidement, messieurs. La première, c'est que la cause est bonne.
Oui.
Les moyens étaient malhabiles, les organisateurs étaient sur un sentier de guerre que les camionneurs n'ont pas voulu emprunter, ce que je trouve normal, puis je tiens à les féliciter personnellement. Le trafic va bien ce matin, puis en même temps, les médias ont très bien relayé l'information, puis les gens se sont préparés en conséquence aussi. Fait que le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de camionneurs dans la manifestation, moi, ça ne m'indique pas que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas à cœur. Ça m'indique que le moyen choisi et que les gens à la tête de cette manifestation-là, ben, c'était peut-être pas les bons, tout simplement. Maintenant, la cause en tant que telle, il y a eu un lien de cause à effet dans les dernières semaines aussi. Tu sais, 200 permis qui ont été suspendus en Ontario. Puis ça m'a amené à retourner voir, moi, un reportage que j'avais raté, que JA a fait, c'est quand? C'est le printemps passé.
Camionneur Inc.
Ouais, parce que, tu sais, des fois, tu reçois des textos, puis il y a des gens qui oublient de nous expliquer, puis ils font juste nous dire « Ah, ben c'est les maudits truckers qui viennent d'ailleurs », puis ainsi de suite, puis... Tu sais, on fait des raccourcis au lieu de nous expliquer. Puis là, tu te dis, ben là, c'est-tu juste du monde qui sont racistes ou ça part de quelque chose? Et dans ce cas-là, ça part de quelque chose qui est tout à fait légitime, qui fait en sorte que des gens qui connaissent pas nos règlements de sécurité routière, des gens qui ont pas appris à chauffer des engins qui sont excessivement dangereux, ben se retrouvent sur les routes pendant que nos camionneurs à nous autres, qui sont habitués aux règles, qui sont habitués aux demandes, qui sont très nombreuses, à remplir le log de façon, écoute, de façon quasi militaire, ben c'est normal. C'est normal qu'ils soient en joie le vert. Puis, s'il y a une chose qu'on comprend bien, c'est que on fait des généralisations très rapidement et très facilement. Puis quand il y a un accident mortel ou un camion à contresens fauche la vie d'une jeune famille, bien là, on dit, bien tabarnouche, les camionneurs, ils font pas attention, puis ils respectent pas leurs règles, puis ainsi de suite, alors que c'est toujours une minorité, puis elle vient toujours des mêmes écoles, écoles entre gros guillemets, sont toujours formés entre gros guillemets de la même façon. Il y a quelque chose de très important là, puis moi, je suis surpris que le gouvernement du Québec n'ait pas déjà profité du fait qu'il y ait eu près de 200 permis suspendus pour rebondir fort sur ce dossier-là, puis dire, ben là, on a un problème, on va s'asseoir avec les gens de l'Ontario, puis on va essayer de le régler.
Mais comme t'sais. M. Doragy mentionne, ce qu'actuellement, c'est que les gars, les contrôleurs routiers, peuvent pas sortir de leur cabane.
Ben oui.
Ils sont à la balance. Ils n'ont plus le droit de patrouiller. Donc, ils sont à la balance. Et s'il y a un camionneur qui est illégaux qui passe, qui n'a pas de permis de conduire parce que c'est arrivé il y a deux semaines, c'est la Sûreté du Québec qui a dû faire une intervention. Ils sont tombés sur un gars qui n'avait pas de permis de conduire dans le véhicule. Ben, si le gars décide de passer devant la balance, ils ne peuvent pas aller le chercher.
C'est ridicule. C'est complètement ridicule. Hey, en passant, mon chef Doragy, es-tu rendu le meilleur politicien au Québec?
C'est un... Écoute, moi, je suis arrivé ici, j'ai parlé de ça, de ce politicien-là. Mm. Je le voyais comme étant le digne successeur pour devenir le chef du Parti libéral du Québec.
Je me fous de la couleur, en passant. Hein? La couleur du parti, puis... Non, ouais. C'était peut-être un mauvais choix. Mais je m'en fous aussi, absolument.
T'es bien repris avec la couleur du parti,
mais
je te félicite.
Je voulais vraiment parler de la couleur du parti. Je fais des jokes même quand je veux pas. Ça va pas bien, mon affaire. Je vais finir de me réveiller tranquillement. Toutes mes excuses.
Fait, bref, je le voyais pour succéder puis devenir chef du Parti libéral du Québec parce que c'est un gars qui est très humain.
Oui.
Il reste au niveau du plancher des vaches, puis il a des oreilles au niveau du plancher des vaches plutôt que des lobbyistes qui lui pissent de l'information constamment dans les oreilles pour lui faire changer son discours. Puis malheureusement, pour nous autres, et heureusement pour lui, il a fait un choix familial. il a pensé à ses enfants.
On peut pas s'obstiner beaucoup contre ça.
C'est ça. Puis, tu sais, il le fait avant de se présenter.
Bravo.
Plutôt que de dire, après 2 ans, ah, finalement, il faudrait que j'aille m'occuper de mes enfants.
Il gagne. Je te dirais que c'est un choix qui fait en sorte qu'il gagne de mon estime personnelle.
Mais je suis pas mal persuadé, comme, parce que Pablo, je pense pas qu'il reste là très longtemps. C'est un chef transitoire. Transitoire à mes yeux. Je suis pas mal persuadé que dans les prochaines années, on va le revoir.
Ben, soit lui ou soit Marois Risky. La problématique de la grande famille libérale au Québec, c'est que les deux meilleurs ont choisi leur famille rapprochée. Marois Risky, mon chef d'éragiste, c'est aussi simple que ça.
Les valeurs à bonne place, c'est ça. Bien correct.
Dans le cas des camionneurs, on se demande si on n'attend pas une tragédie. Là. C'était dans des reportages aussi de JE, Journal de Québec, Journal de Montréal, où des camionneurs enlèvent le signaux qui transporte des matières dangereuses pour passer dans le tunnel Hippolyte Lafontaine, ben ça va plus vite. Fait qu'on attend quoi que le tunnel explose?
Ben, ça serait plate hein, de tout le temps attendre les mortalités puis de tout le temps attendre les tragédies, mais souvent, c'est la seule chose qui nous fait bouger concrètement au Québec. Là, on a tous les éléments que ça prend. Oui. On sait où est le problème. On sait comment le régler de notre bord, puis on sait quoi dire de l'autre bord pour qu'ils puissent s'occuper de leurs affaires aussi. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Il faut juste être au fait du problème puis l'aborder de front. Le gouvernement de la CAQ n'a plus rien à perdre de toute façon. C'est des points faciles à gagner, je trouve, personnellement.
Oui, Jonathan Julien qui a envoyé une déclaration hier comme quoi, qui, depuis qu'on l'avait mis en poste, il est en discussion à tous les jours. Là. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Ce qu'on me dit dans les prochaines heures, effectivement, le ministre Jonathan Julien qui va rencontrer l'association de camionnage, lui disait qu'il travaillait déjà.
Et il a mentionné que ce serait pas long qu'il réglerait le problème des contrôleurs routiers. Donc, c'est à suivre.
Parce que ça aussi, il peut y avoir une problématique. Là. Parce que si tu leur donnes des guns, déjà que les contrôleurs routiers ont des droits que les policiers peuvent pas avoir. Les policiers, si exemple, ils soupçonnent que dans ton camion, il pourrait peut-être y avoir de la dope lors d'une intervention, je sais pas, pour un excès de vitesse, ben, ils ont des demandes à faire. Tandis que les contrôleurs routiers peuvent ouvrir la boîte.
Ils peuvent y aller
derrière. Okay. Et là, si tu leur donnes un gun, les gars gagnent entre 70 et 75 000 piastres. Si tu leur donnes un gun, bien, prochaine convention collective, ils font le même travail que les policiers de la Sûreté du Québec. Fait qu'il va falloir que tu les augmentes entre 10 et 15 000 piastres de plus parce qu'ils ont une responsabilité de plus.
Mais ils ont-tu besoin d'un gun pour prendre la route puis arrêter un trockeur illégal qui n'a pas de permis? Je sais pas.
Ben, le tribunal a dit que oui.
T'sais, moi, je connais pas leur travail. Ce que je sais, c'est que parfois, ils sont seuls dans leur véhicule, puis ils sont dans des endroits qui sont isolés. Là, tu te ramasses avec un gars qui a pas de permis de conduire dans son camion, puis qui veut pas collaborer. T'appelles avec ton téléphone la Sûreté du Québec, mais là, tu sais, je parlais avec un de mes chums qui était à la Sûreté du Québec là, 3 semaines. Pour la Beauce, là, sont 6 véhicules.
C'est pas énorme.
Fait que si t'as une problématique avec un camionneur un peu fou de l'Ontario, puis t'as juste une petite matraque, puis ton poivre de Cayenne, tu souhaites que le gars sorte pas quelque chose de son camion. Là.
C'est sûr.
Est-ce qu'ils ont besoin d'un gun? T'sais, ils sont tombés déjà sur de l'armement. Donc, ils ont fait ouvrir la boîte, puis il y avait des fusils d'assaut là-dedans. Fait que tu comprends qu'eux autres, ça doit les avoir stressés aussi. Est-ce qu'ils ont besoin d'un gun? Ce serait peut-être plus à un spécialiste qui pourrait te répondre là-dessus. Mais c'est sûr que ça va être... De 10 à 15 000 piastres va être demandé au prochain renouvellement de leur convention collective. Parce que si on met un gun, ils ont le même travail que les policiers de la Sûreté du Québec. Denis, je le sais que ça va te surprendre, parce que tu es toujours positif par rapport aux contrats qui sont donnés par le gouvernement. C'est la gang de Québécois qui sont tombés sur ce dossier-là. On nous apprend que la facture pour la conception et la construction du nouveau pont de l'île d'Orléans vient discrètement d'augmenter de 25 millions de dollars. C'est la valeur du contrat du groupe Héritage Orléans qui est en effet passée de 1,856 milliard à 1,881 milliard dans le système d'appel d'offres du gouvernement le 2 septembre dernier. La CAQ ne s'en est pas vantée. Et ce qu'on nous dit, c'est que ça concerne la conception et construction du nouveau pont. Les autres coûts représentent les honoraires pour la planification et le suivi du projet. Une réserve aussi pour les risques, les frais généraux, les coûts de financement, ainsi que le coût des activités connexes. 25 millions, puis il y a juste les pylônes qui sont posés. Là.
Ah, il n'y a rien de fait. Il n'y a absolument rien de fait. Je veux dire, à part s'assurer que les habitats soient préservés là, pour des crustacés et des mollusques dont on ne connaît même pas les noms. Pour le reste, je commence à bien comprendre la présence de Jonathan Julien au ministère des Transports. Je pense qu'on voyait tout ça venir, puis ça prenait quelqu'un qui souriait en hochant de la tête, puis nous disait « Ben non, tout est beau, tout va bien au ministère des Transports. » C'est peut-être le jovialisme qu'on avait besoin au ministère des Transports pour les prochaines années, parce qu'on sait que les coûts vont exploser, parce qu'on travaille pas assez vite, puis qu'on prévoit pas assez bien.
T'sais. Non, mais vraiment... T'sais, le pont va se faire en 2028, alors faut s'attendre à plus de dépassements de coûts dans
oui.
ce cas-ci.
C'est pas le dernier, là.
Il n'y a pas de doute dans mon esprit. Et ça me fait penser aux autres projets dans la ville de Québec, qu'on pense au tramway qui est évalué à 7,6 milliards, mais qu'on va réviser le prix en 2027. Attendez-vous, comme les oppositions le disent, à quelque chose autour de 10 milliards. Même principe pour le troisième lien, qu'on se dit, ça va être entre 5 à 9 milliards. On va être plus sur le 9 milliards à attendre. Parce que le pont de l'Île-d'Orléans est un bel exemple d'attente. Il était censé être fait en 2026, il est en 2028. On fait juste rajouter des centaines de millions de dollars en dépenses.
C'est parce qu'il y a comme deux portions des augmentations du coût des projets publics. Tu as l'augmentation parce que tu travailles pas assez vite puis que tout augmente. Mais l'autre portion, c'est juste que le projet part pas. Puis pendant ce temps-là, ben, la facture fait juste s'ajuster au coût de la vie. Tu as des évaluations qui datent de 10 ans. C'est normal que 10 ans plus tard, on rajuste ça vers le haut. Puis c'est ce qu'on fait présentement à Québec, du surplace. Ouais. Le troisième lien n'avance pas, le tramway n'avance pas, il se passe rien.
Ben, le tramway est un bel exemple. En 2015, c'était 3,3 milliards. En 2025, on est rendu à 7,6. En 2027, on va être rendu à 9.
C'est sûr. On va péter le 10.
On fait du surplace.
On est capable.
Puis, tu sais, on avait parlé avec Philippe Couillard dans notre ancienne vie radio, mais je pense que je n'étais pas là ce matin-là. J'étais avec l'autre animateur qui t'accompagnait. Puis Philippe Couillard, il était à droite, là, il était assis comme dans le fond. Puis, il répondait aux questions. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il pensait qu'on allait faire la réfection du pont de l'île d'Orléans. Puis là, j'ai dit, la réfection, c'est parce que vous allez en bâtir un autre à côté. Puis moi, mon but, c'était de faire sauver de l'argent aux gens. C'est-à-dire, bien, regarde, si on a un 2 milliards ou un 3 milliards à mettre là, aussi bien faire la continuité de l'autre côté. Puis il avait dit non, mais on va faire ça de cette façon-là. Là, on va relier Québec à l'île d'Orléans, puis on va commencer par ce projet-là. Puis là, j'avais dit, oui, mais pourquoi vous ne faites pas l'autre bout? On a déjà un bout de chemin de fait. Puis c'était impossible pour lui, dans sa tête, de sauver de l'argent. Mais là, actuellement, à 2 milliards pour quoi? 2 points quelques milliards pour 7 000 personnes. J'adore les gens de l'île d'Orléans, là. Mais c'est parce que ça commence à coûter cher de l'âme. Là.
Mais on y va morceau par morceau. On n'a pas de vision articulée. On n'a pas de vision globale. On avance un bout de tramway, puis on va peut-être faire les autres bouts à un moment donné. On change le troisième lien de place au gré du vent et des études qui s'empilent. Ça prend une vision globale.
Ben
faut
oui.
que tu saches... Comment tu vois ta ville? Avez-vous déjà joué à SimCity, les gars? Ça date. C'est un vieux jeu, là. Mais l'idée, c'est que tu simules la vie d'une ville avec les taxes puis comment t'articules tes axes.
Et tu prévois ça, t'es en grand projet. Ah tiens, il va falloir que les gens se déplacent dans ma ville. Je vais leur trouver des axes de déplacement pérennes.
En fait, la clé du jeu, c'est de prévoir d'avance qu'est-ce qui va arriver.
C'est ça.
Puis si tu prévois pas, ben Godzilla va péter ta ville dans le cas de le dire. Heureusement, nous autres, on a pas de Godzilla, mais ça ferait peut-être du bien à quelques élus de jouer à SimCity parce que la clé du jeu, c'est de dire on est capable de se transposer dans 10 ans puis d'avoir une vision. Si on fait un tunnel là, c'est parce qu'on sait ce qu'on fait dans 10 ans puis on sait où ça va déboucher dans 10 ans puis qu'est-ce qu'on va pouvoir connecter dans 10 ans. Là, on a des gouvernements puis on a un hôtel de ville qui nous place un morceau là pour faire beau. Puis je trouve que c'est ce qui nous fait le plus mal présentement à Québec, c'est que t'as pas de vision globale. Il y a pas un politicien qui est capable de t'expliquer dans 10 ans la ville de Québec, ça va être quoi?
T'as tellement raison et malheureusement, on avait ce plan-là, il y a 10 ans, en 2015 avec le réseau express de la capitale, SRB qui reliait Québec et Lévis jusqu'au complexe Desjardins. Un troisième lien à l'Est, on avait tout ça, mais pour des raisons idéologiques, on a mis ça aux poubelles, puis on a décidé qu'on faisait autre chose.
Il y avait des égos aussi là-dedans.
Oui, des égos, mais oui, Gilles Laulier, Régis Labombe.
Oui, absolument.
mais ce qu'on a mis aux poubelles, c'est un plan global, puis on y revenait avec une petite portion de plan. C'est ça le problème. Bon point, par contre, qui est amené par François Legault dans l'extrait qu'on écoutait, c'est les fameux contrats contrat. Il va falloir que les contrats en infrastructure aussi, le dépassement de coûts, soit quelque chose qui va être partagé, pas juste au coût de l'État. Il faut que l'entrepreneur qui dit « je vais te faire un pont », puis là, je prends l'exemple du pont de l'île d'Orléans, à 2,7 milliards, bien, ça soit 2,7 milliards, ouais. Ça soit pas 4,5. Là.
Ça prend une expertise aussi au gouvernement pour surveiller les dépassements de coûts.
Il y avoir de bonnes évaluations.
Bon point. Tu sais, tu mets un fonctionnaire qui n'a aucune idée comment ça fonctionne, là, la construction, puis il peut se faire remplir solide, puis Lino Zambito, à qui j'ai parlé la semaine passée, là, il m'a joué dans la tête. Là. Lui, il est persuadé que, même s'il y a eu la fameuse commission Charbonneau, là, la mafia est encore très impliquée. Les entrepreneurs se parlent. T'sais, il n'y a plus rien à gagner, plus rien à perdre, M. Zambito. Mm-hmm. Il a tout perdu parce qu'il a décidé d'embarquer dans le pool avec les entrepreneurs corrompus. Puis il payait les cotes à la mafia et tout ça. Il a tout perdu. Mm-hmm. Puis aujourd'hui, il s'est refait. Puis il accorde des entrevues. Mais lui, la raison pour laquelle il parle, c'est qu'il veut informer le public actuellement. Plus rien à perdre. Fait qu'il veut informer le public. Il dit il y a encore des problématiques. Il y a encore de la corruption. Il faut absolument que le gouvernement se penche là-dessus.
La criminalité la plus efficace, c'est celle dont on ne parle pas. Pendant qu'il y a une guerre sur le terrain entre les bandes rivales de motards puis de distribution de petites drogues, bien, il y a peut-être d'autres secteurs où c'est beaucoup plus tranquille et beaucoup plus payant. Moi, la version de Lino Zambito, je l'achète.
Moi, elle me stresse. J'étais un peu tanné. Connais-tu Napoléon?
Oui. Oui!
Tu le connais?
Ben, je le connais. Écoute, c'est un personnage quand même relativement public depuis plusieurs années.
Il est surcharré depuis des années qu'on restaurait. C'est lui qui a le rock and roll?
C'est lui qui a le rock and roll.
Qui est fermé depuis un bout, là.
Il est-tu fermé?
Ben, écoute, moi, je le vois souvent, le rock and roll, c'est en site, là.
Ouais?
Il semble pas avoir homme qui vive.
T'as essayé d'ouvrir la porte dessus? Mais ça fait longtemps que M. Wu est très... public dans son secteur, dans son quartier. Oui. Moi, c'est un nom que j'ai vu passer.
Écoute, à plusieurs... Il n'y a pas la langue dans sa poche.
Yannick, on mentionne sur le site web du Walk and Roll que c'est fermé les lundis, mardis. C'est maintenant ouvert seulement de 16h à 20h du mercredi au dimanche.
Un peu de Windex dans la fenêtre d'en avant, ça ferait du bien aussi.
Ça ferait du bien, ça pourrait bien faire pour que le commerce gagne en popularité en heure d'ouverture.
Pourquoi M. Hou fait jaser ces temps-ci?
Oh là là!
Qu'est-ce genre de culture, là, que... Vous mangez gratuit, vous avez des logements gratuits, vous avez des vêtements gratuits. Aujourd'hui, à Québec, là, t'es pas obligé de travailler pour vivre, là.
Et t'as ouais.
Lui, ce qu'il dit, là, je veux pas trop mettre de mots dans sa bouche, mais en même temps, je l'ai écouté 25 fois à cote, là. Ce qu'il dit, c'est que Québec, c'est une plaque tournante pour l'itinérance parce qu'on est un resort pour eux autres.
C'est
un tout étoile.
Ça fait radio de 2002, là. On est rendu ailleurs, on est en 2025, puis le problème de l'itinérance, il est grave à Québec, mais il est plus grave encore dans d'autres villes canadiennes. On fait souvent le parallèle avec Edmonton, où il y a 5 fois plus d'itinérance.
Vancouver.
Puis présentement, s'il y a quelque chose sur lequel tout le monde s'entend, c'est que les besoins dépassent et de loin les ressources. Ce que ça veut dire, c'est que c'est pas vrai que tu manges à ta faim quand t'es itinérant présentement à Québec. Ça a peut-être déjà été vrai, mais c'est plus le deal loger, nourrir parce que t'as 10 itinérants dans la ville, mm-hmm. puis qu'on a tous les organismes d'aide autour. Moi, je trouve que c'est un discours qui date, puis c'est probablement le pire timing pour tenir ce discours-là, parce que l'itinérance, on a perdu le contrôle, puis malgré tous les organismes d'aide, on parlait avec les gens de Centraide, La semaine
oui,
passée.
Oui, excellente entrevue en passant que j'ai pris.
Des gens qui nous disent les demandes ont doublé, puis des fois même triplé. Puis nous autres, on en a de l'argent, puis on en a des ressources, puis on essaie d'articuler tout ça. Mais à un moment donné, on ne suffit pas à la demande. Ouais. Et le visage de la pauvreté a changé. Ça, c'est l'autre affaire où M. Wu erre peut-être un peu. C'est que tu as beaucoup de gens qui ont besoin d'aide, qui travaillent présentement, qui ont des familles à nourrir. Ils arrivent en char pour aller chercher leurs affaires. Tu sais, c'est pas juste des itinérants et des sans-abri, c'est des nouveaux problèmes de pauvreté qui s'ajoutent à ceux qui existent déjà.
Ben avec la crise du logement, quelqu'un qui est une mère monoparentale ou même un couple, que le couple va gagner 18-20$ de l'heure, arrive pas, il est obligé d'aller dans les banques alimentaires. T'as pas le choix.
Il savait, M. Hamad, que M. Wu pensait ça, parce qu'il a toujours quand même été assez vocal et ouvert sur sa vision de la ville puis de Saint-Roch.
T'sais, moi, ce que j'aime de M. Wu, c'est que c'est un monsieur qui est libre. Oui. Il se fout éperdument de ce que les autres peuvent penser de son opinion, puis il donne son opinion. Puis lui, ben, depuis des années, il est dans le secteur de Saint-Roch, puis il vit avec la problématique de l'itinérance, de la toxicomanie, de l'alcoolisme autour de lui. Fait que lui, il voit ça tous les jours. Fait qu'il a l'impression que c'est ça le monde entier.
Puis il faut comprendre la perspective de la personne qui travaille, ouais, qui compte pas ses heures, puis qui se demande comment ça se fait que le monde travaille pas autant que lui autour. Tu sais, je comprends un peu son raisonnement, puis c'est bien d'être un électron libre. Si je suis Sam Hamad, que je fais une gaffe par trois jours, moi, les électrons libres, c'est drôle, hein? je le dirais merci, mais non merci. J'ai pas besoin de ça pendant ma campagne.
C'est quoi? Je te suis, mais le gars est tellement aimé à Saint-Roch que ouais, j'ai l'impression qu'il va y avoir plusieurs personnes qui pourraient voter pour lui. Là.
Peut-être. Puis ça prend une vision pour Saint-Roch. Puis là, une chose est sûre et certaine, dans Saint-Roch, on a des visions différentes. Ouais. Ça, moi, ça me plaît.
Denis, je t'ai révélé il y a de ça quelques semaines que le projet pilote qu'on a dans le secteur de Destimoville pour les itinérants, ça nous revient à 108 000 piastres de la porte.
Pour les conteneurs. Les maisons conteneurs, oui.
Donc, c'est un conteneur qui a coûté entre 10 000 et 15 000 $ tout dépendant du conteneur. On coupe ça en deux, puis on fait deux chambres, mm-hmm, avec un peu de tuyauterie, puis un peu d'électricité, puis on ferme ça, OK? Il n'y a aucun luxe là-dedans, là. Il n'y a rien, mais c'est 108 000 piastres de la porte, donc 216 000 piastres du conteneur. Je trouvais que c'était cher, parce que ce conteneur-là, il prendra jamais de la valeur.
Non.
Puis le terrain, ben, il appartient à la ville, là. Fait que, tu sais, le terrain ne prendra pas de la valeur, là. Et à Montréal, ils ont fait la même affaire, Denis. Puis ils ont calculé, là, les 60 premières places, ils ont mis les itinérants dans des habitations modulaires. Combien ça peut coûter par mois à Montréal loger un itinérant dans le fameux projet pilote? Et là, on ne parle pas des services qui viennent avec.
Mm-hmm.
Juste mettre un itinérant dans cette chambre-là, dans une habitation modulaire.
À Montréal, on doit réussir à faire ça surprenamment cher.
Par mois. Tu sais, mettons que ça coûterait combien? Moi, honnêtement, là, je dirais une chambre pour un itinérant à Montréal, 1000 piastres par mois. Une chambre.
J'aurais probablement guessé 1000 piastres, 1002.
T'aurais dit quoi, Jeff?
Par mois à Montréal, je vais y aller avec 1008.
Ah, oh, toi.
1006.
1006. Ben, vous n'êtes pas dedans.
Non.
C'est 2600 piastres par mois uniquement pour mettre un itinérant dans une chambre à Montréal.
C'est cher, hein?
Mais juste pour loger, t'as pas les services là-dedans, t'es la personne qui va l'accompagner justement pour lui montrer à faire ses tâches ménagères, pour lui montrer à reprendre sa vie en main, des bases économiques, etc. C'est juste le logement.
Les 60 premières places qui se trouvent sur le site de l'ancien hippodrome et dans le futur quartier des proximités, situé sur Louvain dans Hansik, ont coûté 5,5 millions de $ aux contribuables, en rapportant ce montant sur la durée prévue de ces projets pilotes, soit 2 à 3 ans. Chaque place coûte en moyenne 2 579 $ par mois. On calcule même que ce montant pourrait grimper à 2 800, incluant les coûts de paysagement, d'entretien et d'électricité. Donc, on parle uniquement de prendre l'itinérant,
aïe, aïe, aïe,
puis de le mettre dans une chambre qui est un endroit qui est modulaire. Je ne suis pas un spécialiste de l'immobilier, là, mais tu achètes un immeuble, puis tu le convertis en chambre, puis tu mets des spécialistes là-dedans qui peuvent les aider pour la réinsertion à la vie régulière, empêcher ces gens-là de prendre de la drogue à l'interne, prendre de l'alcool à l'interne de cet édifice-là. Cet édifice-là va prendre de la valeur avec le temps, puis le terrain va prendre de la valeur. Mais eux autres, j'ai l'impression que c'est une passe d'argent, les itinérants. Ça se peut-tu?
Je ne sais pas, mais mettons que je suis étudiant à l'Université Laval et que j'ai une chambre en résidence. Là, j'ai le droit d'être jaloux, je pense. Hein? Je regarde le setup, je regarde le prix qu'on paye pour ça, puis je me dis, ouais, on a-tu les priorités aux bonnes places? Puis je comprends que ça s'adresse à une clientèle sur le rebond et ainsi de suite. Mais à ce prix-là, ça va vraiment rester des projets marginaux. C'est pas des projets qu'on peut étendre.
Puis le maire Marchand dit que ça fonctionne. Puis tu sais, je peux y faire confiance là-dessus. Là. Il est très près des organismes communautaires. Puis ce que Éric Boulay, avec toute son équipe à l'Aubrivière, font, c'est-à-dire au-dessus de l'Aubrivière, il y a des logements qui sont supervisés. Et c'est une réussite.
Ouais.
Mais l'Aubrivière, si tu revends ça dans 20 ans, ça va valoir une petite fortune.
Mm-hmm.
Mais ces immeubles-là, ces conteneurs-là qu'on achète dans le secteur de Destimoville ou les trucs modulaires à Montréal, ça va être à refaire aux 10 ans.
Les coûts sont surprenants.
C'est parce qu'on essaie de réinventer quelque chose qui existe déjà. À Québec, on a déjà le projet Porte-Clé et c'est là-dedans que la famille Choquette investit justement. C'est des organismes communautaires qui se regroupent, qui vont prendre des itinérants en main, puis justement qui vont les repartir à la base pour qu'on leur permette de redevenir des gens autonomes dans la société et productifs. Mais ces organismes-là prennent des logements, prennent déjà des ententes avec l'OMHQ, avec des propriétaires privés qui vont leur faire des logements à faible coût. Donc, pourquoi on fait des conteneurs alors qu'on a déjà ces programmes-là qui existent?
J'ai l'impression que on veut faire travailler le monde du communautaire. Ça se peut-tu? On a besoin de tous ces organismes-là.
Il manque pas d'ouvrage.
Écoute, le monde du communautaire est déjà submergé par l'itinérance. Ils n'ont pas besoin d'un programme de conteneurs.
Pourquoi on le fait? Pour quelle raison on le fait?
J'ai l'impression qu'on veut bien paraître. J'ai l'impression qu'on débute une campagne électorale puis on veut montrer qu'on fait des choses concrètes.
T'as-tu accès au texto, toi?
Comment ça?
Parce que les gens disent ça.
Ben, tabarnouche. Non, j'ai pas accès au texto, mais
pour les Kodak.
On est quelques-uns à jaser tous ensemble, fait que j'imagine.
Ben, c'est clair que c'est pour les Kodak, parce que si tu parles... Puis ils te le diront jamais, là, les gens dans les organismes communautaires, parce que c'est des gens politiques qui veulent pas se mettre personne à dos puis qui ont pas le choix de travailler avec l'administration qui est en place. Mais les conteneurs à Destimoville, loin de tous les services, là... Très mauvaise idée. Il n'y a pas de doute là-dessus. Là. Mm-hmm.
Puis en même
très mauvaise idée.
Les besoins sont tellement là, à partir du moment où un politicien veut se faire une belle jambe avec un nouveau projet, il n'y a personne qui va dire non puis qui va faire la fine bouche là, dans le contexte actuel.
C'est ça. Puis là, évidemment, ils vont travailler avec l'organisation en place parce qu'ils disent, au moins, c'est quand même une action concrète qui est faite, mais c'est pas l'action qui aurait dû être faite.
Il nous reste une minute, les gars?
Vas-y, mon ami.
Non, c'est parce que tantôt, t'as fait jouer le premier ministre François Legault à Tout le monde en parle.
La grosse cote de 4 minutes ou celle-là de Monsef de Raji?
Celle-là où il parle de l'immigration puis de tout ce qu'il faut faire puis qui s'ostine un peu avec Guillaume Lepage.
C'est la grosse cote de 4 minutes. Ouais. C'est immigration. Je peux te la faire écouter si tu veux. Elle est longue, mais elle est tellement pertinente.
Écoute, je veux juste la mettre en contexte parce que je l'ai entendu quand tu l'as fait jouer aux auditeurs ce matin, puis je vais aller écouter l'entrevue au complet cet avant-midi. Tu m'as donné un devoir bien malgré toi, parce que tout le monde en parle, j'essaye de me tenir loin. Mais est-ce que le premier ministre nous a dévoilé son prochain plan de campagne électorale?
Oui, c'est ça, mais je te l'avais dit, c'est une... les prières de rue, là, ça va être la question à la urne.
Fait que la urne?
La question à la urne.
Mais ça va être écrit ces pancartes. On est le PQ, mais on fait pas de référendum. Parce que là, on s'en va directement sur le terrain du Parti québécois. Là. C'est tout ce que Paul Saint-Pierre... je vais demander à notre péquiste de service. Mais est-ce que je me trompe, Max? C'est tout ce que Paul Saint-Pierre Plamondon dit depuis plusieurs années déjà sur l'immigration.
Ça ressemble à ça.
À quelques virgules près. Fait que le slogan de la CAQ pour la prochaine campagne électorale, ça va être ça. On va arrêter de faire semblant. On est le Parti québécois, pas de référendum. On s'en va jouer sur le terrain du Parti québécois. Puis la carte, la stratégie électorale de François Legault, elle est simple. C'est jouer sur l'immigration, c'est sensible au Québec. On a peur de ces affaires-là. Puis en même temps, il va manquer un volet à cette réflexion-là. Puis ça, moi, je ne l'ai pas entendu encore. Si on ferme la porte aux immigrants... Comment on fait pour recommencer à faire des flots au Québec s'assurer que tout roule?
Il ne faut pas fermer la porte aux immigrants. Il faut continuer d'en accueillir. Il faut bien les accueillir. 200 000, parce que c'est sûr que quand tu regardes le tour de la table, à tout le monde en parle, ce n'est pas des gens qui sont avec le vrai monde. C'est des gens qui sont dans leur tour d'ivoire. T'sais, Guillaume Lepage qui dit « Ben là, les prières de rue, j'en vois pas de chez nous. » Ça va-tu, man?
Je n'ai pas vu non plus, personnellement. Là.
Ça veut pas dire qu'il y en a pas.
La dernière prière de rue que j'ai vue, c'est à parade à Bonne-Saint-Anne, à Croix-de-Saint-Anne, à Chicoutimi, puis c'était pas mal nous autres, ça, avec les croix, puis les rameaux, puis les patentes, qu'ils le font encore.
Puis tu sais, notre cerveau, tellement qu'on aime partager, mais on veut partager notre place, fait qu'on se dit, mais pourquoi il veut limiter le nombre d'immigrants qui veut rentrer chez nous? Il veut pas les empêcher, il veut les limiter. Accueillir 200 000 personnes de plus sur l'île de Montréal, là, T'as-tu les infrastructures nécessaires?
C'est énorme.
Les enfants à l'école? Faut que tu leur trouves des jobs? Faut que tu les loges, ces gens-là? Plus tous les services? Puis il a parlé de l'aide sociale aussi, là, parce que ces gens-là, ils arrivent ici, ils sont sur l'aide sociale pendant des mois et des mois. Puis là, il a dit quelque chose que je trouve particulier parce qu'il y a des stations de radio qui se sont fait reprocher ça. Il y a ça quelques années, tu me diras c'est quelle? Je me rappelle pas c'est quelle station de radio, mais il a dit après 6 mois d'aide sociale, on est-tu obligé de continuer de les payer encore?
C'était Radio Galilée. Non, mais moi, il y a un angle.
C'est pas week-end,
je cherche
tout
le temps.
Ouais,
c'est week-end, c'est Dallaire.
C'est les opinions à week-end.
Martin, controversé Dallaire, hein, on le connaît tous. Non, mais moi, il y a un angle que personne n'exploite présentement, puis ça m'agace. Et je présume que Guillaume Lepage n'est pas allé dans cette direction-là, mais est-ce qu'on explique le paradoxe québécois à nos immigrants qui arrivent ici, pour qui leur religion, c'est important, puis là, on leur dit, ici, c'est laïque, fait que la religion n'est pas importante. Puis après ça, ils envoient leurs enfants dans des écoles qui portent des noms de religieux. Ils voient des crucifix partout dans les bâtiments officiels ou à peu près. Ils ouvrent le canal Nouvelle, puis ils apprennent que nos ministres vont au Vatican pour les funérailles du pape. Ça se peut-tu qu'ils soient mêlés un peu? Ça se peut-tu que, malgré nous, on crée un contexte où ils se sentent obligés de montrer que leur religion est importante aussi.
Ça se peut.
T'sais,
tout ça est vrai.
Le
problème étant que quand tu vas réécouter l'entrevue, là, c'est que, à un moment donné, on a une capacité d'accueil. Là.
Ça, c'est sûr.
200 000, ils sont déjà 2 millions sur l'île de Montréal. Mm. Tu rajoutes 200 000 personnes. C'est du stock. Puis François Legault, bref, je vais vous faire entendre l'extrait avec Jeff tantôt parce que c'est un extrait qui est assez colossal.
Oui, mais ça vaut la peine.
4 minutes 30. Mais ça va être la question de l'urne aux prochaines élections, j'en suis persuadé. Mais ce qu'il dit, je veux dire, il ramasse les deux gars autour de la table. Tu te rends compte que les deux gars autour de la table n'ont aucune idée de ce que ça représente recevoir autant d'immigrants rapidement dans un endroit donné. Les gens arrivent au Canada, ils regardent à gauche, et Tabarouette de Vancouver, c'est... T'es peu... L'Alberta, Saskatchewan, non... Là, ils regardent Ontario. Oh, les services, les produits, le panier de services est intéressant. OK, qu'est-ce qui se passe l'autre? Jackpot l'autre bord, Québec.
Mais
le panier de services est tellement intéressant pour eux autres que c'est normal, Denis, qu'ils veulent venir chez nous.
C'est sûr, mais la meilleure façon de contrôler son flot d'immigration, c'est justement ça, de faire des flots. Comment on va s'organiser pour que les Québécois fassent plus de flots?
Ben, moi, je fais de la pratique, là.
Ah oui, mais t'en veux-tu d'autres?
Ça dépend des fois.
Moi, je suis coupé. J'ai bien beau me pratiquer comme je veux. Je veux dire, moi, mon bout est fait, là, j'en ai deux.
Ouais. Les pires, c'est ceux qui sont coupés puis ils font croire à leur blonde plus jeune que, ben, ils sont pas coupés.
Ouais. Hey, j'essaye, mais ça marche pas.
Jusqu'à temps qu'elle découvre.
C'est terrible.
Hey, en terminant, Denis, oui, on va t'écouter à 14h, bien entendu.
Yes.
Juste te dire, on a une problématique dans l'équipe du matin. Parce que tu sais que nous, on signe des contrats radio puis on peut pas mal faire paraître notre entreprise à l'extérieur.
Mm-hmm.
Tu comprends?
Oui.
Dans un bar de la grande région de Québec, il y a du karaoké. Et nous, on a un amateur, je n'aimerais pas de nom, on a un amateur de karaoké à la station.
Il est relativement facile à cibler.
Qui a failli se faire sacrer dehors
j'ai
d'un bar.
J'ai pas failli me faire sacrer dehors, j'ai failli partir de moi-même.
Pourquoi?
Parce que le gars...
Je voulais pas te nommer, Max. Là.
T'es-tu comme un gambler au casino qui se met lui-même sur une liste noire parce que... Tu fais comme manger la machine à karaoké à partir du moment où t'arrives?
Non, c'est que d'habitude, je chante un certain nombre de fois dans une soirée.
Uh-huh.
Plusieurs, là, ouais. Le gars, il m'a dit, il voulait plus me laisser chanter. Puis j'ai dit, hey, ce serait correct si t'étais égal avec tout le monde, mais pourquoi avec les filles, ça c'est correct, puis les filles peuvent aller chanter 7-8 uh-huh. fois, mais que moi, ça fait deux fois, puis je suis barré.
T'es pas capable toi-même de comprendre pourquoi il veut que les filles chantent plus que toi?
Moi, je les comprends, là.
Ouais, moi aussi.
Ouais. Pourquoi?
Je comprends pas mal, moi aussi, pourquoi il fait comme ça.
Je donne
ça,
le meilleur show.
Pas nécessairement.
Ben, attends, Mr. Brightside, c'est la folie chaque fois.
La folie, oui.
Ben oui, c'est la folie. Vous venez pas, vous parlez, vous dites des niaiseries parce que vous savez pas ce
Max,
que vous...
Mais c'est parce que le gérant était là pour t'entendre. Là.
C'était pas le gérant, c'est un gars qui est là pour
Max,
animer le karaoké.
Je suis l'animateur de karaoké. Le gérant me dit, faut que le party lève, faut que le monde boive.
Je suis le premier qui t'envoie sa scène.
Faut qu'il y ait une soirée mémorable pour qu'on fasse du cash.
Moi, je pense qu'il faudrait discuter de ça avec Nicolas Leclerc.
Le monde comme Max, il y a un nom pour ça. Hein? Ma blonde en anime des karaokés, on appelle ça des cancers à karaoké. Ça, c'est du monde qui bouffe la machine, qui fournit zéro entertainment. Pis
ouais, zéro entertainment.
L'idée, c'est non. de les limiter au strict minimum.
Je suis le meilleur showman de la place.
On va juste faire une image pour que Max comprenne
mieux.
Vous
m'avez jamais vu.
T'as Audrey Pinchot qui va aller chanter cinq fois au karaoké.
Ouais.
Une belle grande blonde.
Oui, qui avec une voix.
Avec une voix qui va attirer les regards et qui va faire en sorte que les hommes vont vouloir consommer de l'alcool encore plus. Et t'as Max Larouche. Qui te choisit?
T'sais, Tu ressembles à Ed Sheeran, mais t'as pas le talent d'Ed Sheeran. T'es fourré, là.
Venez me voir, je vais vous montrer que je suis bon.
Non.
Mais ben ça, c'est ton problème. Mais ben arrête de me rabaisser. Non, tu m'as jamais vu mettre le party dans
place. Je veux pas te voir. Je veux voir des filles saules chanter
ben,
provocantes.
C'est ça. C'est ça que j'ai compris en fin de semaine.
Le gars, sa job, Max, c'est de faire vivre son karaoké à toutes les fois qu'il est des bars. C'est lui qui s'occupe du micro. C'est un fin connaisseur. Toi, t'arrives, puis après 10 fois, il te rejette parce qu'il trouve que tu chantes trop.
J'ai chanté 2 fois.
Tu manges des minutes importantes d'entertainment.
Non.
Tu vas faire
je
fermer
suis
des
l'entertainment. Je suis le spectacle.
Tu sais qu'on est tous des journalistes enquêteurs ici à la station. Là. Il y a des auditeurs qui ont déjà assisté à tes performances et qui comprennent le gars du karaoké de t'empêcher de chanter.
Ouais. Tu sais qu'on avait une belle activité le vendredi après-midi, puis qu'à cause de toi, on peut plus la faire.
Ouais.
Les vendredis rock and chill. Là.
Ça dépend qu'est-ce que je chante, là. Il y a des fois que j'essaye des affaires, puis tu sais, c'est comme. Ça peut arriver à tout le monde, là.
Ça dépend qu'est-ce que je chante, mais tantôt, dans ces 3 tours de notre karaoké, il y a le mets Iris.
Ben oui, c'est mon plus grand succès actuellement.
C'est quoi le refrain?
And I don't want the world to see me. Mais j'ai besoin d'une foule pour être dedans.
Denis, je pense qu'on a fait le tour.
Moi, il faut que je m'en aille.
Okay.
Moi aussi. Ça sera 9h aujourd'hui.
8h25, fais donc ce que tu fais le mieux, la circulation, contrairement à Audrey Pinchot.
C'est super. Hey, c'est ouvert partout.
Il n'y avait pas de manifestation aujourd'hui, les lundis inferno.
Ouais, c'est pas si infernal que ça, c'est ouvert.
OK, on parlait entre 10 et 15 camions là, ce matin qui faisaient la boucle sur le pont Pierre-Laporte de façon à ralentir le trafic. Malheureusement pour eux, ça s'est pas passé comme ils pensaient, donc le trafic n'a pas été ralenti. Au contraire, ça roule comme ça n'a jamais roulé un lundi.
C'est un des plus beaux lundis que j'ai vu de ma vie.
Par contre, les demandes des camionneurs, c'est très important, là, puis le gouvernement doit écouter. On doit revoir les contrôleurs routiers sur la route et pas juste aux balances, puis les maudits chauffeurs illégaux qui proviennent de Brampton en Ontario, qui ont un permis de conduire de Wish, puis qui tuent des gens sur nos routes, eux autres, il faut les retirer du circuit routier. Fait que, tu sais, moi, je veux pas rire de ce mouvement-là parce que c'est des gens qui veulent changer les choses. Puis aujourd'hui, c'est un flop monumental, Max, on va se le dire. Mais les demandes, comme on a jasé avec mon chef de régie, ça doit être entendu de la part du gouvernement provincial et du gouvernement fédéral.
On l'a répété beaucoup.
8h27, 418-971-101, 418-971-101. On me demande si le petit moment de Max va être disponible sur les réseaux sociaux, sur notre application.
Quel moment?
Probablement que ça va être disponible sur notre application, mais je veux juste vous dire que c'est Max qui est responsable des cotes à mettre sur l'application. Donc, s'ils ne sont pas là, vous contacterez Jeff et lui va se faire un plaisir de mettre cette cote-là là-dessus. De même que le Pit Stop avec Denis Gravel. Tous les podcasts sont là. Si vous avez un Google Home ou encore un Alexa, dites BLVD 102.1 à votre Google ou Alexa. 8h27, courte pause.
Marceau le matin.